Bonjour à tous. Alors, je suis très content d'être avec vous aujourd'hui. C'est un peu bizarre de prêcher comme ça dans son salon, mais ma foi, c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui. Et honnêtement, je suis voilà, aussi très content de d'avoir la possibilité, d'avoir les moyens technologiques pour pouvoir quand même faire cette prédication et puis pour que voilà, un certain nombre d'entre vous puissent en profiter. Malgré le fait que on peut pas être ensemble. Alors voilà. Alors aujourd'hui, on va continuer dans notre série sur la communication de Jésus. Et j'avais aujourd'hui envie de partager avec vous autour du chapitre 13 de l'évangile de Matthieu. Alors Matthieu chapitre 13. Et puis ce que je vous propose, c'est de mettre pause et puis de lire chez vous le chapitre 13. Et puis ensuite de reprendre l'écoute, comme ça on aura tous le chapitre en tête. Alors, vous l'aurez compris, aujourd'hui j'aimerais vous parler des paraboles. Alors, j'espère que vous m'en voudrez pas et que vous ne serez pas trop déçus. On ne va pas rentrer en profondeur dans les paraboles de ce texte aujourd'hui, mais plus on va essayer de prendre un peu de recul et de se poser des questions sur pourquoi est-ce que Jésus utilise ce moyen de communication à ce moment précis, et puis de voir un peu aussi comment voilà, cela peut nous apprendre des choses, nous inspirer aussi pour notre vie et pour notre foi. Alors peut-être avant de plonger plus en profondeur dans ce texte, juste le replacer dans son contexte. Si je me concentre principalement sur l'aspect toujours communication de Jésus dans son ministère, avant ce chapitre 13, on a eu le sermon sur la montagne, il y a eu beaucoup de miracles, il y a eu aussi plusieurs enseignements dans les synagogues, avec aussi des confrontations avec les pharisiens et les scribes. Et puis après ce chapitre 13, on a aussi de nouveau des enseignements dans la synagogue, des miracles. Et du coup, ce chapitre est un peu quand même comme une rupture en fait dans la communication et dans la manière dont Jésus communique dans son ministère. Alors voilà, on est à ce moment, Jésus sort et il y a une foule qui s'amasse. Et Jésus décide d'enseigner cette foule qui est grande, hein, il monte même dans une barque tellement il y a de monde. Et puis il commence à raconter une parabole, la parabole du semeur. Et à la fin, les disciples lui demandent, lui posent cette question. Et en fait, tu fais quoi là, Jésus? Pourquoi d'un coup tu t'es mis à parler en parabole? Finalement, cette question, c'est un peu les disciples qui sont déroutés et puis qui se demandent pourquoi est-ce qu'il refait pas tout simplement le sermon sur la montagne. Alors, la première chose, c'est qu'il était dans une barque, donc déjà, c'était pas possible. Mais plus sérieusement, si on se met à la place des disciples, on peut assez bien comprendre. C'est comme si nous, on organisait une énorme soirée d'évangélisation, et d'un coup, il y a 5 000 personnes qui sont venues, on se dit waouh, c'est excellent, on fait monter l'orateur, il monte sur scène, puis il se met à raconter des histoires. Puis il raconte une histoire, deux histoires, trois histoires, ses petites histoires, ses petites fables, et puis au bout d'une heure, il descend de scène, puis tout le monde est un peu là, genre, il s'est passé quoi là? Et les guérisons, les délivrances, l'annonce de l'évangile en 3 points, non, d'accord. Et du coup, il y a cette question des disciples, voilà. Mais pourquoi est-ce que tu leur parles en parabole? Puis la réponse de Jésus est assez simple, parce qu'à vous, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pas à eux. Du coup, je leur parle en parabole. Alors, Jésus dit pas pourquoi ces gens ne pouvaient pas comprendre. Il dit simplement, en fait, je sais que ces gens ne comprendront pas, du coup, je leur parle en parabole. Moi, la deuxième question qui me vient, c'est du coup, pourquoi est-ce que Jésus, du coup, leur a parlé? Parce que j'ai envie de dire, si vous êtes un orateur quelconque et que vous savez que de toute façon, personne ne va rien comprendre, voilà, il aurait aussi pu se dire, c'est un jour sans, voilà, je me tais. Ce que fait Jésus, c'est que il décide de leur expliquer la parabole du semeur. C'est assez intéressant parce qu'en fait, si on réfléchit, la parabole du semeur, c'est quoi? C'est une explication de ce qui se passe quand quelqu'un annonce le royaume de Dieu. Et qu'est-ce que Jésus est en train de faire avec cette foule? Il est en train d'expliquer ce qu'est le royaume de Dieu. Donc en gros, il y a une parabole qui explique ce qu'il est en train de faire maintenant. Et ce que Jésus, par là, essaie d'expliquer aux disciples, c'est que le fait que les gens comprennent ou pas sur le moment, c'est pas l'important, que l'important, c'est de semer. Et c'est vrai que les disciples ont été habitués à quelque chose de différent, à de l'instantané, à des délivrances, des miracles, des confrontations, quelque chose de oui, non, de avant, après. Et là, ils sont confrontés à un changement de rythme, à une autre approche. Et Jésus est vraiment en train là de leur révéler un autre aspect, peut-être plus long terme, de la manière dont ils se révèlent. Alors, cela ne nous explique toujours pas pourquoi est-ce qu'il parle en parabole. Pour comprendre, il faut relire le verset 12, qui est d'ailleurs à première lecture, même à deuxième ou troisième lecture, un peu mystérieux, qui dit « Car à celui qui a, on donnera, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. » Alors la première partie du verset, on comprend assez bien, elle est plus dans l'encouragement de « Ah ben, réjouissez-vous parce que vous, vous avez compris, du coup, ben c'est super, faites fructifier cela. » Mais l'autre partie de ce verset, c'est plutôt un avertissement. C'est vrai qu'on oublie parfois que quand on nous annonce ou quand nous annonçons le royaume de Dieu, il n'y a que deux possibilités à la fin. Soit la personne accueille cette révélation et ça change sa vie et ça transforme et ça grandit, soit la personne ne l'accepte pas et auquel cas, eh bien, les conséquences sont tout autres. Et on oublie parfois que oui, c'est une bonne nouvelle, puis c'est comme ça qu'on l'appelle, on dit annoncer la bonne nouvelle, mais c'est une bonne nouvelle si... C'est une bonne nouvelle si les gens l'acceptent. Et si les gens ne l'acceptent pas, c'est pas tout à fait la même chose. Et du coup, Jésus dit à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Parce qu'en effet, à la fin, il y a un jugement. Et ceux qui ont choisi et accepté le royaume de Dieu, ben, tout va bien. Et c'est le paradis. Mais pour ceux qui l'ont rejeté, eh bien finalement, c'est l'enfer. Donc c'est l'absence de toute chose. Du coup, certes, quand on annonce à quelqu'un la bonne nouvelle de l'évangile, on lui offre une chance incroyable, un cadeau. Mais en même temps, on la met aussi face à ses responsabilités. Ses responsabilités, c'est le choix d'accepter ou non. Et si la personne n'accepte pas, eh bien quelque part, ça veut dire que ce trésor, elle ne l'a pas. Et que le fait qu'elle ne l'a pas et qu'elle ne l'accepte pas, à la fin, elle perdra tout, y compris ce qu'elle pensait avoir. Et là, on commence à comprendre le pourquoi. On commence à comprendre que Jésus est finalement motivé par l'amour et par la compassion pour cette foule. Il savait qu'il ne comprendrait pas. Il le savait à l'avance parce qu'il est Dieu et qu'il sait tout. Et s'il leur avait annoncé les choses de façon directe, il les aurait tout simplement condamnés à mort. Et on sait que, comme dit le verset de Jean, Jésus est venu non pour juger, mais pour sauver le monde. Je crois qu'il y a vraiment des enseignements à tirer pour nous dans la manière dont nous annonçons l'évangile, de cette manière dont Jésus, lui, a fait les choses, cet usage des paraboles. On est souvent comme les disciples, il ne faut pas se cacher, on a envie des choses directes, des choses instantanées, on a envie parfois des choses peut-être un peu visibles, parfois spectaculaires, on veut les miracles parce qu'on se dit, voilà, c'est ça qui va faire une différence. C'est ça qui va faire que les gens vont se convertir. Mais Jésus nous montre par son exemple que l'important, c'est de semer. De semer en gardant à l'esprit qu'il y aura à la fin un jugement, qu'il y a un choix, et que ce choix va changer la vie des gens qui ont à le faire, en bien ou en mal. Et au final, ce que Jésus dit, c'est qu'il vaut mieux planter une graine, aussi petite qu'elle soit, comme un grain de moutarde, mais de la planter dans le cœur, où elle a une chance, peut-être, de grandir, plutôt que de vouloir assommer les gens avec un sac de graines sur la tête, ce qui risque de simplement les faire fuir et de leur faire faire un choix qui aura des conséquences dramatiques pour leur vie. Alors maintenant qu'on a vu un peu pourquoi Jésus parle en parabole, qu'est-ce qui le motive à faire ça? J'aimerais qu'on s'attarde sur qu'est-ce que ça veut dire finalement annoncer le royaume de Dieu et qu'est-ce que ça veut dire aussi pour nous dans notre manière de le comprendre, de l'appréhender et de le faire grandir dans nos vies. Pour ça, j'aimerais m'arrêter sur le verset 52. Je vais être honnête, ce verset, la première, je crois, et même la deuxième fois que j'ai lu le chapitre, je l'ai à peine survolé, il m'a pas plus marqué que ça. Puis à la troisième lecture, j'ai lu ce verset, et vraiment là, je me suis dit, waouh, ouais, ça en fait, c'est un verset clé, quoi. C'est un verset où Jésus, il lâche une vérité incroyable avec une énorme profondeur. Alors j'aimerais essayer de vous montrer ce que moi j'ai trouvé dans ce verset. Alors déjà, la première chose, c'est ce verset qui dit « C'est pourquoi tout scribe instruit de ce qui regarde le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. » J'aime bien l'aspect de scribe ou de maître de la loi, spécialiste du royaume de Dieu. Ça fait un peu un super titre. Moi, j'aimerais bien qu'on m'appelle spécialiste du royaume de Dieu. Puis je me dis, quelque part, est-ce que tous les chrétiens ne devraient pas être des spécialistes du royaume de Dieu? Mais, en tout cas, ce que fait Jésus ici, c'est qu'il nous donne une définition de ce que c'est une personne qui a compris et qui enseigne le royaume de Dieu. Et bien sûr, pour donner sa définition, il utilise une parabole, une dernière. On est souvent, je pense, à beaucoup sortir des choses nouvelles de notre trésor. Quand on annonce l'évangile, quand on parle même de notre foi, quand on parle de Dieu, on veut toujours parler de ces choses nouvelles, de ces choses qui sont peut-être surnaturelles, de ces choses qui sont tellement incroyables, qui sortent de l'ordinaire quelque part. Parce qu'on a envie de montrer aux gens à quel point ça change la vie et à quel point... C'est incroyable ce que fait Dieu, et qui est Dieu, et toutes les réalités d'en haut, quelque part. Mais à force de faire ça, on arrive parfois à quelque chose de très désincarné. Et puis après, ben, on s'étonne que, par exemple, beaucoup de chrétiens disent à quel point c'est difficile pour eux que leur foi soit vraiment vécue de manière concrète dans leur vie. On s'étonne aussi que les non-croyants, des fois, soient aussi tellement à pas comprendre de quoi on parle et à nous trouver tellement, tellement perchés, tellement bizarres. Je crois que c'est exactement l'enjeu de ce que dit Jésus ici. Hein. C'est la réponse à la question. Moi, j'entends souvent des gens dire « Ah ouais, moi j'aime bien une prédication bien concrète comme ça, parce que alors, les trucs théologiques où ça plane à 3000, franchement, ça m'apporte rien et je sais pas comment ça va m'aider dans ma vie, dans mon quotidien. » Et je crois que justement, Jésus répond un peu à cette question où finalement, il dit « En fait, le royaume de Dieu, c'est des choses nouvelles et des choses anciennes. » Et finalement, Jésus, c'est qui? Finalement, Jésus, c'est le spécialiste du royaume des cieux en personne. Lui, sa mission, c'était montrer que Dieu peut s'incarner dans l'homme et annoncer que ici, maintenant, sur terre, on pouvait déjà vivre en partie les réalités du royaume des cieux. Et du coup, ça change beaucoup la vision qu'on peut avoir de comment on peut vivre notre foi, comment on peut comprendre aussi l'action de Dieu dans nos vies. Dieu ne vient pas comme un bulldozer. L'idée, c'est pas de nous raser complètement et puis de refaire quelque chose qui soit plus ou moins ressemblant à nous, mais qui soit purement divin. Non. La manière dont Jésus se révèle dans nos vies, et la manière dont le royaume de Dieu grandit en nous, c'est vraiment Jésus qui vient dans nos cœurs, dans nos vies. C'est cette graine qui est plantée et qui croît. C'est cette graine qui ensuite transforme tout notre être, transforme qui nous sommes, transforme notre réalité. Mais c'est vraiment nous, avec quelque chose à l'intérieur, qui vient et qui grandit comme ça. C'est pas une destruction, c'est pas une annulation ou une annihilation complète de nous. C'est quelque chose qui vient de l'intérieur et qui transforme nos vies en profondeur. C'est l'image du levain. Le levain, c'est microscopique. Mais vous mettez dans la pâte le levain et ça gonfle et ça grandit. Et l'annonce du royaume de Dieu, c'est pas « devenez pur levain, soyez levain, débarrassez-vous de la pâte, devenez pur levain ». Non. Non, l'annonce du royaume de Dieu, c'est laisser ce levain grandir en vous, dans votre pâte, votre vie, Laissez-vous transformer, laissez-vous grandir, laissez ce royaume venir multiplier tout ce que vous êtes pour le meilleur. Dieu a planté une part de lui en nous et c'est notre responsabilité de laisser grandir cela, de laisser toutes ces vérités, toutes ces réalités se développer en nous et nous transformer. Et moi, j'aimerais vraiment vous mettre au défi, spécialement dans cette période où nos quotidiens sont bouleversés, où nos habitudes changent, où je pense quand même qu'on est tous poussés vers une vie beaucoup plus simple. Je vous invite à prendre ce temps de vous recentrer aussi sur vous et sur votre foi et sur qu'est-ce que ça veut dire pour vous, qu'est-ce que c'est que ces réalités du royaume de Dieu et qu'est-ce que cette graine que vous avez au fond change dans votre vie, comment est-ce qu'elle peut grandir dans votre quotidien, comment est-ce qu'elle peut prendre de la place. Je sais, moi je vois là, voilà, on nous propose pas mal de choses de l'extérieur, voilà, on vous dit, c'est l'occasion, un plan de lecture, quelque chose, faites ceci, des ateliers, des trucs. Et je dis pas que c'est une mauvaise chose, c'est aussi des bonnes idées qu'il faut prendre. Mais je me dis que c'est aussi l'occasion de se recentrer aussi sur vous, sur votre relation avec Dieu, sur notre relation avec Dieu, et de se dire, ok, mais maintenant que j'ai beaucoup de distractions en moi, comment est-ce que je peux repartir de ce commencement? Comment je peux repartir de cette base, c'est-à-dire de ce qui est vraiment au plus profond de moi? Et comment est-ce que ça peut grandir et prendre, peut-être reprendre la place dans des aspects de votre vie où vous n'avez plus de place, peut-être des nouveaux endroits de votre vie où ça peut prendre de la place, mais vraiment que, voilà, je vous mets au défi de prendre ce temps aussi pour réfléchir comment vraiment les réalités du royaume peuvent grandir dans votre quotidien. Puis bien sûr, dans le même temps, que ce passage continue aussi de nous encourager à semer, bien entendu, en nous laissant inspirer par Jésus, par la manière dont il a parlé à cette foule. Et je sais vraiment que dans cette période, pour certains, pour, je pense peut-être beaucoup d'entre nous, on ressent parfois une pression plus grande pour des proches, pour des gens à qui on tient et pour qui on s'inquiète, que ces gens se tournent vers Dieu, qu'ils fassent un pas décisif. Et voilà, je le comprends tout à fait, je le vis aussi personnellement. Mais j'aimerais dire simplement que voilà, Dieu seul sait ce qui se passe dans les cœurs. Dieu seul connaît les timings, Dieu seul peut faire croître. Dieu seul peut convaincre. Et finalement, notre rôle, c'est de semer. De semer ces graines du royaume, aussi petites qu'elles puissent être. Alors, voilà, je vous encourage aussi dans cette période à continuer de semer autant que possible autour de vous, mais de semer en laissant libres les gens de leur choix et en les aimant, comme Jésus a aimé cette foule. Je vous invite à prier. Seigneur Jésus, je te remercie pour ton exemple, pour l'exemple que nous avons de la manière dont tu as parlé à cette foule, avec quel amour, avec quelle compassion, Seigneur, tu as parlé à ces gens qui pourtant ne pouvaient pas comprendre, Seigneur, mais que tu as choisi d'aimer et que tu as choisi de semer en eux cette graine, Seigneur, du royaume des cieux, pour leur donner une chance, pour leur donner une chance de te découvrir, pour te donner une chance d'être sauvés. Seigneur, je te prie vraiment que tu puisses faire grandir aussi, continuer de grandir cela en nous, qui avons fait ce choix d'accepter ces réalités, mais Seigneur, nous n'aurons pas trop de ce confinement et surtout pas trop de toute une vie, Seigneur, pour comprendre ces réalités, pour nous laisser transformer par tout ça, par nous rapprocher toujours plus de toi et de ce que tu veux pour notre vie. Seigneur, je te prie aussi justement pour tous nos proches, Seigneur, pour toutes les personnes qui nous entourent et qui ne te connaissent pas, Seigneur, pour toutes ces personnes qui n'ont pas encore accepté, Seigneur, ces réalités, que tu puisses vraiment convaincre, Seigneur, que tu puisses faire germer ces graines qui ont été semées. Seigneur, que tu nous aides aussi à semer de la bonne manière, à semer avec amour, à semer avec respect envers tous ces gens, Seigneur. Et je te prie vraiment que tu puisses, que tu puisses faire croître. Que tu puisses faire croître en chacun ton royaume. Seigneur, bien sûr, je veux aussi te remettre toutes les personnes de notre Église et d'ailleurs, Seigneur, qui souffrent, qui sont touchées dans leur santé par ce qui se passe en ce moment. Seigneur, je te prie de les garder Je te prie pour les autorités de la Suisse et de tous les pays qui font face à ce virus, Seigneur. Je te prie de donner la sagesse dans les décisions. Je te prie bien sûr pour toutes les personnes qui sont impliquées, personnel de santé et autres, Seigneur. Que tu les bénisses, que tu les encourages, que tu les relèves, que tu les fortifies, Seigneur. Je te prie vraiment que tu puisses te servir aussi de ce qui se passe, Seigneur, de ces événements aussi, pour te révéler dans la vie de beaucoup de gens, Seigneur, et que tu nous gardes surtout dans ta paix, que tu nous gardes unis, Seigneur, que nous puissions aussi sortir grandis dans notre relation avec toi, grandis dans nos relations les uns avec les autres, Seigneur. Nous nous remettons en toi, nous te louons, nous te bénissons. Au nom de Jésus. Amen.